Merci d'écouter RFI. Il est 22h à Paris, 23h à Jérusalem et Ankara.
Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Clémentine. Bonsoir à tous.
Israël et la Turquie renouent. Les deux pays ont annoncé le rétablissement de leurs relations diplomatiques. Les autorités turques souhaitent toutefois continuer à défendre aussi les Palestiniens.
Pour la première fois, l'Allemagne envoie 6 avions de combat dans la zone Indo-Pacifique. Le pays participe à des exercices militaires avec d'autres nations.
Au Brésil, Jair Bolsonaro et Lula mènent campagne pour la présidentielle d'octobre et les militaires pourraient bien faire office d'arbitre, servir d'arbitre, c'est ce que nous dira Justine Fontaine.
Et puis sur les réseaux sociaux, les appels à boycotter, c'est-à-dire à ne plus utiliser Facebook, se multiplient.
Le journal en français facile.
Israël et la Turquie ont donc rétabli leurs relations diplomatiques.
Oui, les ambassades vont rouvrir et les ambassadeurs seront bientôt de retour dans les deux pays. Ce rapprochement, il a été annoncé par le Premier ministre israélien, Yair Lapid. Il intervient après 4 années de brouille, de fâcherie, de rupture. Ankara dit vouloir tout de même continuer à défendre les Palestiniens. Les précisions de Céline Pierre Magnani.
L'annonce du Premier ministre Yair Lapid vient clore plus d'une décennie de relations houleuses entre Israël et la Turquie. Fervent soutien de la cause palestinienne, le président turc Recep Tayyip Erdogan est connu pour la virulence de ses critiques envers le gouvernement israélien. Si la Turquie a été le premier pays musulman à reconnaître l'État d'Israël en 1949, la relation bilatérale a été marquée par plusieurs crises ces dernières années. En 2010, l'armée israélienne avait attaqué un navire humanitaire à destination de Gaza, faisant 10 morts parmi les ressortissants turcs, un épisode qui avait durablement altéré le dialogue entre les deux pays. Symbole de son soutien à la cause palestinienne, la Turquie abrite de hauts dignitaires du Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007. La nouvelle du rapprochement turco-israélien intervient alors que la Turquie reprend le dialogue avec ses grands voisins du Moyen-Orient, comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Depuis quelques jours, les déclarations du ministre des Affaires étrangères turc suggèrent même que les relations avec la Syrie de Bachar el-Assad pourraient faire l'objet d'un réchauffement. Céline Pierre Magnani, à Istanbul pour RFI.
Et les relations continuent, en revanche, de se dégrader entre la France et le Mali. Bamako accuse Paris d'espionnage et de soutien aux groupes djihadistes. Ces accusations, elles sont formulées par le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop. Dans une lettre, il demande au Conseil de sécurité de l'ONU d'organiser une réunion d'urgence. La France, de son côté, qualifie ces accusations d'insultes pour la mémoire des 59 soldats français morts sur le champ de bataille au Mali. Ce sont les mots du général Bruno Barat, commandant de la force française Barkhane. Pour rappel, la France s'est définitivement retirée du Mali en début de semaine, après plus de 9 ans de lutte contre le djihadisme.
L'Allemagne cherche à renforcer sa présence dans la zone Indo-Pacifique.
Oui, l'armée allemande y a envoyé 6 avions de combat Eurofighter, c'est leur nom. Le pays participe pour la première fois à des exercices multinationaux dans la zone. Multinationaux, c'est-à-dire avec plusieurs nations, avec plusieurs pays. Cette opération intervient alors que la Chine a lancé les plus importantes manœuvres militaires de son histoire autour de Taïwan. À Berlin, Pascal Thibault.
Il ne s'agit pas du tout d'un signal adressé à la Chine. Le chef d'état-major de l'armée de l'air allemande a tenu à dissocier la participation des Eurofighters de la Bundeswehr dans la zone Indo-Pacifique, une première, des tensions actuelles entre la Chine et Taïwan. Il n'empêche, comme pour l'envoi d'une frégate dans la région l'an dernier, la participation des avions de chasse allemands à des exercices multinationaux en Australie, avant de courtes haltes au Japon et en Corée du Sud à l'automne, souligne la volonté de Berlin d'être présent dans une région où les ambitions chinoises sont perçues comme une menace. Il s'agit du plus grand et du plus ambitieux déploiement jamais réalisé par l'armée de l'air, a souligné la Bundeswehr, qui veut ainsi prouver qu'elle peut intervenir sur différents théâtres malgré la guerre actuelle en Ukraine. Les 6 avions mobilisent 250 soldats. Les avions de combat sont accompagnés de 4 appareils de transport militaire A400M et de 3 A330 pour leur ravitaillement en carburant en vol. La coopération avec la Bundeswehr dans la région semble susciter un intérêt. Des demandes ont été formulées à Berlin par l'Inde, l'Indonésie et la Malaisie pour des exercices militaires communs. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Au Brésil, le face-à-face entre Jair Bolsonaro et Lula est lancé.
Le président sortant et l'ancien dirigeant sont en campagne pour la présidentielle d'octobre. Jair Bolsonaro a tenu un meeting sur les lieux où il avait été poignardé en 2018. L'ancien président de gauche, Lula, s'est lui rendu dans la zone industrielle où il était ouvrier avant de devenir leader syndical. Et dans cette campagne, les militaires pourraient bien faire office, pourraient bien servir d'arbitre. Explication de Justine Fontaine.
D'un côté, le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, nostalgique de la dictature militaire au Brésil, a nommé de nombreux gradés dans son gouvernement. Il multiplie aussi les promesses de campagne envers l'armée. De l'autre côté, Lula cherche, lui, à rassurer l'état-major et appelle les militaires à se montrer garants de la démocratie. Car Jair Bolsonaro, devancé dans les sondages, menace de ne pas reconnaître le résultat des élections. Et comme lors de la dernière présidentielle aux États-Unis, ses partisans pourraient participer à des manifestations violentes en cas de défaite. Maud Chériot est historienne, maîtresse de conférences à l'université Gustave Eiffel à Paris et spécialiste du Brésil.
On sait que Bolsonaro dispose de partisans extrêmement motivés, qui sont des partisans civils, qui sont des militants armés, mais qui sont des militants. Il dispose de l'appui d'une grande majorité des polices militaires. Et les polices militaires au Brésil, elles ont des tanks. Et la question est de savoir ce que feraient les forces armées en cas de violence.
Pour autant, tous les militaires ne font pas bloc derrière le président sortant. 2000 d'entre eux ont signé récemment une lettre pour la défense de la démocratie, un texte soutenu par plus d'un million de Brésiliens au total.
Les livraisons de céréales ukrainiennes à l'Afrique reprennent.
Oui, la première livraison d'aide alimentaire de l'ONU en direction du continent a atteint aujourd'hui le détroit du Bosphore. Le navire transporte une cargaison de 23 000 tonnes de blé. Il a quitté le port ukrainien de Pivdeni hier. Il est attendu la semaine prochaine à Djibouti.
Le chef de l'OMS dénonce la situation dans la province éthiopienne du Tigré.
Tedros Adhanom Ghebreyesus parle de la pire catastrophe dans le monde. Il reproche aux dirigeants des pays développés d'avoir négligé, d'avoir laissé de côté, oublié cette crise. Le patron de l'OMS dénonce une cruauté inimaginable infligée aux 6 millions de personnes vivant dans cette région. Pour rappel, le Tigré est le théâtre d'une guerre entre les autorités régionales et le gouvernement fédéral éthiopien.
Les appels au boycott de Facebook se multiplient.
Oui, le réseau social est vivement critiqué pour avoir fourni certaines informations à la police américaine. Ces informations privées ont conduit à l'arrestation d'une jeune femme qui a avorté aux États-Unis. Et depuis, le mot-clé « Delete Facebook », en français « Supprimons Facebook », est devenu l'une des tendances marquantes sur un autre réseau social, sur Twitter. Dominique Dezonnet.
Les médias américains ont révélé que le géant des réseaux sociaux avait fourni à la police des messages privés ayant permis d'inculper une mère accusée d'avoir aidé sa fille de 17 ans à avorter dans l'état du Nebraska qui interdit depuis longtemps de recourir à l'IVG après 20 semaines de grossesse. La mère est visée par 5 chefs d'inculpation et sa fille 3, dont ceux de dissimulation et d'abandon de cadavres. Réactivé par la militante féministe américaine Olivia Juliana, le mot-clé « supprimer Facebook » a été largement repris sur Twitter et fait partie des sujets les plus discutés en ligne. Dans son communiqué, Facebook a bien tenté de désamorcer ses appels au boycott en indiquant qu'il n'avait pas d'autre possibilité que d'obtempérer aux services de police quand ils sont munis d'un mandat de perquisition signé par un juge. La firme précise aussi qu'elle ignorait que cette demande portait sur une affaire d'avortement. Mais peine perdue, la colère des internautes ne retombe pas. Ils reprochent surtout au réseau social de ne pas chiffrer de bout en bout et par défaut son service de messagerie, comme c'est le cas sur WhatsApp. Cette histoire n'arrange pas les affaires de Facebook qui est confrontée à l'exode massif de ses jeunes abonnés. En 2015, 71% des adolescents américains utilisaient le réseau social. En 2022, ils ne sont plus que 32%.
Enfin, le grand jour approche pour la NASA.
Oui, sa nouvelle fusée est en place pour son décollage vers la Lune. Elle doit s'élancer dans 12 jours depuis la Floride. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à Sylvie Berruet.
Avec plaisir, ça me dirait bien la Lune aussi.
Moi aussi.